Bonjour Alain Rey, nous sommes ravis de vous accueillir aux Utopiales. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment besoin de vous présenter. Vous êtes linguiste, lexicologue. Vous êtes certainement l'un des éléments moteurs de tout l'ensemble Robert, de toute la partie rédaction Robert. Vous aimez à ce point la langue que vous multipliez les possibilités de la faire connaître, de la faire apprécier par les gens, si bien à la télévision qu'à la radio, et que à ce joli rendez-vous qu'est la dernière page du magazine littéraire chaque mois, le dernier mot. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction, nous allons parler de néologisme, d'une vie de langue, d'où viennent les mots et où vont-ils. Alors, j'aimerais commencer par une question qui peut paraître un peu curieuse, mais depuis que l'homme parle, il n'a jamais arrêté. Comment ça se fait ?
Oui, d'abord, il y a une question préalable qui est à partir de quand l'homme parle, et il n'y a pas de réponse, parce que nous avons une certitude quant à l'existence de langues à partir du moment où il y a des notations écrites qui permettent de les conserver et de les transmettre. Et l'invention de l'écriture, c'est environ 3500 ans avant l'ère chrétienne. Ça ne fait pas une très très longue durée par rapport à l'évolution et ça ne fait pas beaucoup de temps par rapport au moment où les hominidés, devenant des sapiens puis des sapiens sapiens, sont capables de s'exprimer d'une manière coordonnée et d'une manière qui leur permet à la fois l'expression des sentiments personnels et la communication. Et cette extravagance que l'espèce humaine est à peu près la seule à connaître, qui est de faire exister des choses qui ne sont pas là. Et ça, c'est le propre du langage. Et l'apparition, c'est très probablement autour de 100 000, 150 000 ans avant l'ère chrétienne. Donc il y a une période de parole continue, comme vous le dites, dans toutes les communautés de l'espèce humaine qui précède le moment où on est capable d'analyser ce qu'ils sont capables de dire grâce à l'écriture. Et l'écriture, on le sait, les premières écritures notables, c'est celle des Sumériens, sous la forme des cunéiformes. Mais c'est un simple code de présentation. Et puis des hiéroglyphes égyptiens antiques. Mais bien entendu, d'autres écritures ont pu disparaître. Et pour les archéologues, interpréter ce qui pouvait être la parole humaine avant l'apparition de l'écriture est un exercice extrêmement difficile et extrêmement aléatoire, parce qu'il s'agit de faire parler les objets que nous avons, les artefacts, comme on dit, c'est-à-dire des objets qui n'existaient pas dans la nature et qui existent grâce à l'homme, par exemple les silex taillés. Or, le fait de tailler un silex pour obtenir un résultat, c'est l'outil qui permet de fabriquer des outils, ça suppose un langage. C'est impossible que ça marche autrement. Et on retient aussi comme signe absolu de l'existence du langage le fait d'enterrer les morts et le fait d'avoir donc des croyances qui ne peuvent exister puisqu'il ne s'agit pas de choses qui sont contrôlables physiquement. Ça ne peut exister que par la parole. Et bon, je renvoie au livre fondamental de Leroy Gourhan qui s'appelle « Le geste et la parole » et qui est absolument fondamental parce que d'une part, il montre que la parole accompagne le geste créateur de l'humanité, c'est-à-dire la technique proprement dite, et cette double essence de l'humanité qui est de fabriquer des objets techniques nouveaux et de pouvoir parler, les deux étant étroitement liés l'un à l'autre, font que la considération du langage est absolument indispensable à la fois à la reconstitution du passé, à la perception du présent et à la prévision de l'avenir. Et ces trois éléments-là, évidemment, vous le voyez bien, c'est au cœur des utopiales, c'est au cœur de la science-fiction, et on pourra revenir sur notre façon de parler. Utopiale, ça renvoie à utopie. Utopie, c'est une invention de la Renaissance. Thomas More, Thomas Morus, à partir du grec, c'est-à-dire le non-lieu. Et l'utopie marche de pair avec quelque chose qui a été nommé beaucoup plus tard, qui est l'uchronie, c'est-à-dire quelque chose qui ne prend pas sa place dans le temps, parce que dès qu'on fait allusion à l'espace, on est obligé, et maintenant ça a été théorisé depuis Einstein, on sait très bien qu'il n'est pas possible de parler d'espace sans parler de temps et vice-versa. Et la question de savoir qu'est-ce que c'est que le temps est une question pour laquelle il y a évidemment plusieurs réponses possibles, suivant qu'on se place dans l'expérience humaine ou selon qu'on se place dans la construction d'un modèle physique de cet élément fondamental de la perception humaine qui est la temporalité. Voilà, donc dans tout ça, le langage est toujours présent, soit comme témoin, soit comme auteur, soit comme gêne aussi, parce que si le langage, ça a été dit par Ésope bien longtemps avant moi, c'est la meilleure des choses parce que c'est le propre de l'homme, de l'espèce humaine, mais c'est aussi la pire des choses parce que le langage, et on en a la preuve tous les jours, est capable de tous les méfaits et de toutes les conneries. Le langage est le seul moyen d'approcher la vérité, mais c'est aussi le seul moyen de mentir. Donc les deux sont là, présents de manière constante, et mentir peut être quelque chose de négatif, et ça aussi, ça peut être quelque chose de positif quand on sait que l'on ment. Et là, le mensonge devient invention, devient l'imaginaire, et nous en avons absolument besoin pour survivre. Un des mensonges qui, pour moi, athée, est le plus positif et le plus constructif, c'est la religion. Mais naturellement, pour quelqu'un qui a un esprit religieux, ça n'est pas un mensonge. Donc ça veut dire que aussi bien l'idée de vérité que l'idée de mensonge sont entièrement relatives, et que ce côté relatif, il est exprimé par une entité, par une sorte de système monstrueusement complexe, aussi complexe que le cerveau humain, et qui est le langage en général. Et nous n'avons pas accès au langage, qui est une abstraction, nous avons accès au langage à travers des langues. Et il y a 6000 langues sur la planète Terre, donc vous voyez que le problème est déjà fortement différencié. Voilà, bon, ça c'est pas une réponse, c'est un commentaire.
Ouais, non, au contraire, ça ouvre complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a une spécificité du langage humain, pas du langage des abeilles, mais une abeille ne ment pas à ses sœurs, elle ne plaisante pas avec ses sœurs.
C'est que là, le langage est métaphorique. Ça n'est pas une langue, bien entendu.
Alors, vous l'avez dit, le langage humain dit les choses, dit nos rapports aux choses, dit la mort, donc des relations abstraites, dit, vous l'avez encore dit, le passé, le présent, le futur. Mais dans ce cas, est-ce que le langage n'arrive pas toujours, ou les langues, le langage à travers les langues, n'arrive pas toujours après, pour sanctionner, pour valider?
Le langage est fondamentalement un phénomène social, et il est évident qu'on ne peut même pas parler du langage en termes de l'identité personnelle seule. Tout le monde connaît les histoires des enfants loups qui, élevés hors de toute communication et de toute existence de langage parlé, sont récupérés sans langage et ne peuvent acquérir le langage qui reste une virtualité dans leur cerveau, parce que ce sont des humains, et que cette virtualité doit être, branchée sur cette réalité sociale et collective qu'est une langue naturelle. Et j'insiste bien là-dessus, parce que une langue naturelle, c'est pas forcément le langage en général, ça n'en est qu'une partie, et en même temps c'est plus qu'une partie. Parce que le langage est toujours à un niveau d'abstraction plus élevé qu'une langue, et une langue même est quelque chose d'abstrait. Je prends l'exemple que je connais le mieux, peut-être le seul que je connaisse d'ailleurs un peu, qui est la langue française. Et déjà, la langue française, ce n'est pas une chose facile à définir, parce qu'il y a des formes de français qui sont déjà dans des difficultés d'intercompréhension. On a des formes de français un peu modifié, un peu influencé par des formes extérieures. Je pense par exemple à des formes très très anglicisées du parler québécois, à des formes hybrides du français d'Afrique, par exemple le français des banlieues d'Abidjan, ça a été fort bien étudié, dans lequel on ne sait même pas quel est le moment où ça cesse d'être du français. Ce qui veut dire que l'entité langue française est déjà une construction abstraite qui est très difficile à définir. Par exemple, au niveau phonétique, il peut arriver que des types de prononciation soient tels qu'il n'y ait plus compréhension entre deux francophones, alors que la syntaxe n'est pas touchée, alors que la morphologie n'est pas touchée et qu'une partie du vocabulaire fonctionne. Et une chose qui est assez remarquable, c'est que dans la langue, il y a des invariants et des variations à l'intérieur d'une même langue. Et ça, c'est encore plus évident dans une langue qui est parlée dans des points différents de la planète, à la différence de celles qui sont parlées que dans un lieu. Le cas du français est moins évident que celui de l'anglais, mais il est quand même très, très significatif. On parle français sur les 5 continents, et il est certain qu'il y a des formes de français d'Amérique du Nord, par exemple à Lafayette, en Louisiane, dans lequel vous avez tout de même 30 ou 35 000 personnes qui parlent français à la maison, mais c'est un français qui est fortement influencé par l'anglais, qui provient du Canada, qui provient donc des Acadiens, quand ils ont été virés par les Anglais, et qui se sont récupérés là-bas. Et ces formes de français sont parfaitement légitimes à se dire du français, et en même temps peuvent poser des problèmes d'intercommunication entre un français de Nouvelle-Calédonie, un français de Tahiti, et un français d'Europe, même avec les variations qui existent, qui sont très légères finalement, entre la France, la Belgique et la Suisse. Déjà, c'est une langue dont la définition devient extrêmement difficile, et la preuve en est, dans mon métier qui est la fabrication des dictionnaires, que les dictionnaires français, jusqu'à une époque assez récente, il y a 30 ou 40 années, n'étaient pratiquement que des dictionnaires du parler d'Île-de-France. Déjà, les Français régionaux, les Français hors de France, étaient complètement négligés. On faisait comme si ça n'existait pas. Or, à partir du moment où 10% des francophones emploient un mot quotidiennement, que ce soit en Normandie, en Bretagne, dans la partie occitane de la France, en Belgique, en Suisse, au Québec, ou en Acadie, au Nouveau-Brunswick, on peut considérer que l'élément observable n'est plus la langue, mais un usage de la langue. Et il faudrait toujours parler du français au pluriel. Évidemment, quand on dit « les Français », il y a une ambiguïté, puisque ça désigne aussi les personnes. Et les personnes qui ont un passeport français. Or, comme je le répète toujours, la langue française n'est pas la propriété des Français et de la France. C'est une entité qui dépasse très largement, et toutes les langues sont indépendantes du côté national. C'est pour ça que l'hyper-nationalisation d'une langue est un phénomène très, très dangereux, qui amène à des abus que l'on connaît bien. Et quand il s'incarne dans une langue qui se croit la propriété d'une société avec un État, le danger commence des interprétations de nature idéologique. Or, il n'y a pas de langue sans idéologie, c'est évident, mais dans les démocraties, en tous les cas, il y a une pluralité d'idéologies à l'intérieur de la même langue, et si ça cesse, on est en pleine dictature. C'est ce qui est arrivé à la langue allemande sous le nazisme. Et il y a eu des études extrêmement sérieuses qui ont été faites sur la perversion de l'allemand, dans lequel des mots absolument courants et quotidiens devenaient des armes de combat du nazisme contre ses ennemis, et en particulier des armes de l'antisémitisme. Et le drame était que les juifs allemands eux-mêmes employaient ces mots dans ce sens-là, parce que... Et je pense, après avoir étudié ces problèmes, que la personnalité de quelqu'un comme Goebbels, qui était en grande partie responsable de la perversion de la langue allemande par la propagande Staffel, est quelqu'un qui est probablement encore plus nocif, encore plus nuisible qu'Adolf Hitler. Voilà, c'est parce que quand on agit sur la langue, il est évident qu'on a un moyen d'action sur l'ensemble de la société et sur la pensée qui est dramatiquement grave, parce qu'il peut rendre malade la société elle-même, y compris les ennemis qu'on a. C'est-à-dire que c'est une façon de détruire les hostilités en imposant une vue biaisée de la réalité par sa langue. Or, toutes les langues ont déjà une vue biaisée de la réalité. Chacun sait, je disais à l'instant, que les langues sont en retard sur l'évolution des sociétés. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de la langue française, qui a un mal de chien, je devrais dire un mal de chienne, à obtenir une féminisation correcte. Et c'est vrai non seulement dans le vocabulaire, ça s'est perçu, Je connais des dames qui ne veulent absolument pas être appelées la présidente, mais qui veulent absolument être le président. Elles ont leur raison, d'ailleurs. Mais la faiblesse morphologique du français est telle que par rapport à des langues pourtant très proches comme l'italien, en italien, quand on est professeur d'université, on est professore si on est un homme, et on est la professoressa si on est une femme. Et en français, on a du mal. Alors, les Québécois ont résolu le problème en disant la professeure avec un E au bout, la docteure avec un E au bout. Mais c'est un barbarisme, mais un barbarisme nécessaire. Et en plus, je crois que le côté de la féminisation des langues est beaucoup plus profond que le lexique, parce que ça se marque dans la syntaxe. Si un homme et 253 femmes sont réunies ensemble, on va dire « il » et « elles » en français. Et ça, bon, c'est évidemment un scandale intellectuel total, mais c'est une réalité de la syntaxe. Et réformer une syntaxe, c'est encore plus difficile que de réformer un vocabulaire. Donc vous voyez que le poids du passé dans la langue est considérable, et en même temps, elle doit s'adapter au présent et imaginer le futur. Donc, résultat, je vais parler français de manière absolument correcte, c'est un bordel total. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'une langue est perméable, elle est riche, les signes, vous l'avez dit, peuvent signifier beaucoup de choses, donc ils sont à la fois riches et fragiles. L'apport du français est parfois curieux. En vous écoutant, je me disais, il y a des gens qui disent des scénarii, d'autres qui disent des scénarios, mais on ne dit jamais, ah zut, je me suis collé un spaghetto sur le pantalon.
Absolument, oui, on ne dit pas, il y avait deux piani sur la scène. Parce que... Non, mais il y a des mots qui sont plus ou moins intégrés à la langue française, et le fait qu'ils viennent d'une langue étrangère n'a plus aucune importance. Ça, c'est le problème très général des emprunts. Très souvent, vous savez, il y a des campagnes, et on peut comprendre d'ailleurs sur l'excès des anglicismes en français. C'est vrai que je trouve dommage que dans une langue, prenons l'exemple du français, le fait qu'il y ait une seule source ou une source majoritaire de mots étrangers qui viennent s'installer dans la langue est un peu dangereux, parce que c'est une façon idéologiquement de privilégier une certaine société par rapport à tous les autres. Et il est certain qu'entre le XVIIIe siècle, où on commence à avoir un flot d'anglicisme considérable, et surtout, il ne faut pas cracher dessus, parce que tout le vocabulaire du parlementarisme, tout le vocabulaire de la démocratie est anglais. Pourquoi ? Parce que les institutions anglaises étaient, nous dirons, en avance sur les institutions françaises au tournant de la Révolution, et que la Révolution elle-même, le mot « révolution » en français est un mot qui vient du latin, bien entendu, mais qui avait été employé en anglais de manière politique auparavant, « revolution ». Seulement, il se trouve que la « glorious revolution » des Anglais était une restauration, ce qui ne marche pas tout à fait avec le sémantisme du mot, qui en français, en 1789, a pris la valeur que nous avons connue ensuite. Mais tout ceci demande des travaux d'histoire très très précis, et si je me suis toujours intéressé à l'histoire des mots, ça n'est pas parce que je suis complètement fanatisé par l'existence des mots par rapport aux choses, c'est parce que les mots sont des fenêtres sur les choses, sont des fenêtres sur la société, sont des fenêtres sur les manières de penser et les manières de percevoir soi-même, les autres et les choses extérieures. Et ce genre d'ouverture de fenêtre, vous savez, c'est comme dans un tableau de Magritte, et là je suis très proche de la science-fiction, c'est une façon de voir que nous sommes devant quelque chose que nous ne maîtrisons jamais complètement, que nous ne percevons jamais complètement, et nous ne savons jamais si nous voyons le monde extérieur ou si nous n'avons pas les yeux fixés sur une vitre qui est intermédiaire entre le monde extérieur et nous. Et par exemple, quand vous regardez un paysage à travers une fenêtre avec du verre bien nettoyé, vous voyez le paysage et vous ne voyez plus du tout la vitre, mais il suffit qu'il pleuve ou qu'il neige, et à ce moment-là, la vitre devient visible parce qu'elle est marquée. Et ce genre de choses, c'est exactement ce qui se passe en matière de langage. Le langage est considéré comme une vitre. Il n'est pas vu, il n'est pas perçu. Et c'est extrêmement dangereux, parce qu'il faut savoir qu'on est dans une langue, qu'on parle une langue, qu'on a des biais, qu'on a des façons d'aborder les choses qui sont extrêmement différentes. Si vous êtes germanophone, vous allez mettre votre verbe à la fin de la phrase. Ça n'est pas la même stratégie de discours qu'en français, vous allez mettre votre verbe au milieu entre le sujet qui est d'abord et le complément qui est après. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. On peut faire des jeux là-dessus, mais ce sont des jeux stylistiques. Et la base du langage est là. Et en allemand, c'est la même chose. Si vous mettez votre verbe avant la fin de la phrase, vous voulez dire quelque chose de particulier, vous voulez insister sur le verbe. Normalement, si vous vous exprimez d'une manière neutre, il faut avoir déjà en tête le complément avant d'avoir le verbe. Et ça, ça change complètement la manière de voir les choses, en profondeur, hein, parce que la syntaxe est beaucoup plus profonde que le lexique. Mais comme je suis quelqu'un de superficiel, je préfère le lexique à la syntaxe, qui me paraît quelque chose d'assez mystérieux, et qui est au centre, d'ailleurs, de ce dont il est question ici aux Utopiales, et qui est l'intelligence, avec l'intelligence artificielle. Parce que qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou d'intelligence humaine, il s'agit de syntaxe, essentiellement. C'est-à-dire, il s'agit de mettre ensemble des choses et de faire coordonner et de fabriquer des réseaux. Alors, les réseaux, c'est du syntactique. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que les langues passent leur temps à être engluées dans des syntaxes, mais en même temps font des efforts colossaux pour en sortir. C'est-à-dire avoir une vision directe des choses, et ça, c'est le lexique. C'est pour ça que le lexique... Faites l'expérience, vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez pas la langue. Si vous connaissez la syntaxe de la langue, parce que vous avez fait des études de linguistique générale ou de linguistique comparée, et que vous n'avez aucun mot à mettre dans vos phrases, vous ne pourrez pas communiquer du tout. Si vous ne connaissez pas du tout la syntaxe et que vous avez un petit vocabulaire élémentaire en tête, dans un bouquin de conversation, même le plus mal foutu du monde, eh bien vous pourrez toujours communiquer par rapport aux choses qui ne sont pas là. Si les choses sont là, vous n'avez plus besoin de langage du tout. Et on est dans le monde de la monstration et non plus de la démonstration. Et à ce moment-là, on est dans le monde de l'image. On est dans l'image parce que quand vous montrez du doigt quelque chose, vous connaissez tous l'anecdote chinoise qui est que quand on désigne la lune avec son doigt, l'imbécile voit le doigt. Et ça veut dire que, à mon avis, c'est pas du tout l'imbécile qui voit le doigt. Le linguiste, quand il voit un mot, il voit le mot, indépendamment de ce que le mot désigne. Et donc, c'est l'imbécile chinois. Je revendique le statut d'imbécile chinois pour pouvoir percevoir le signifiant et non pas seulement la désignation de ce qu'il montre. Mais ce qu'il montre est fondamental. Et c'est ce qui existe dans notre sensibilité aux mots. Et ça va se retrouver dans l'écriture, ça va se retrouver dans les nouvelles, dont il va être question à l'instant. Eh bien, cette sensibilité aux mots, elle est faite de la double sensibilité à ce que désignent les mots, au monde du signifié et au monde du référent, qui est au-delà du signifié et qui est indépendant du langage, et puis au monde du signifiant, qui est la matérialité du mot, avec son odeur, avec sa couleur, avec son goût. Et ceux qui sont insensibles au goût de la langue, évidemment, ne seront jamais écrivains, mais je pense que ça sera aussi, s'ils sont des linguistes, ça sera de très mauvais linguistes. Malheureusement, il y en a. Il y a des gens qui sont dans l'étude formelle du langage et qui n'arrivent pas à s'en sortir, ce qui fait que c'est un peu comme un neurobiologiste qui n'aurait en tête que les schémas neuronaux, sans être capable d'évoquer leur fonctionnement et leurs effets. Il est évident que tous ces schémas n'ont de raison d'être que leurs effets. La forme des mots n'a pour raison d'être que ce à quoi ils permettent d'accéder en dehors d'eux-mêmes. C'est la nature du signe. Et à partir du moment où on sait qu'un mot est un signe, on sait qu'on est dans un univers de la signification, et cet univers, il a sa vie propre. Il a été, je crois, assez parfaitement décrit, malheureusement, par un philosophe américain dont la lecture et la théorie du signe sont tellement complexes que tout le monde s'y perd, qui est Charles Sanders Peirce. Et je pense que c'est probablement le plus grand philosophe des États-Unis, beaucoup plus que William James ou d'autres qui sont plus connus, parce que sa théorie du signe, c'était un scientifique de formation, un chimiste. Et très souvent, je constate que les scientifiques sont ceux qui aboutissent justement soit à des théories linguistiques, soit à des élaborations littéraires ou des élaborations de vocabulaire considérables.
Justement, sur l'élaboration littéraire et la relation aux sciences, ici on est dans dans un lieu qui parle aux deux, qui est celui de la science-fiction. Alors, la science-fiction, le terme est un néologisme qui est hésitant. On a tenté en Europe et aux États-Unis différentes formules comme le merveilleux scientifique, scientific romance. Et autour d'Hugo Gernsback, même si c'est pas lui le premier en 29, on pose le terme science-fiction. Moi j'aimerais que vous nous parliez d'après vous, pourquoi c'est le mot science-fiction qui a pu avoir cette fortune, et puis après évidemment d'un des néologismes emblématiques qui est robot.
Alors pour la science-fiction, je pense que l'expression est anglo-saxonne. Science est un mot anglais, mais science est un mot français, tout ça vient du latin. Et c'est aussi alors un témoignage au passage du fait que l'anglais est complètement nourri de latin et de français. Non pas grâce aux Normands qui ont envahi l'Angleterre après la bataille de Hastings, et il faut quand même se rappeler qu'on a parlé anglais, on a parlé anglais toujours en Angleterre, mais la couche supérieure de la société, les puissants, les riches, etc., ont parlé français pendant 2 siècles et demi, après l'invasion de l'Angleterre. Et la francisation du vocabulaire anglais, qui est considérable, qui est beaucoup plus considérable que l'anglicisation du vocabulaire français, s'est faite non pas à ce moment-là, parce que là, il y avait les deux langues. Les pauvres parlaient l'ancien saxon, les riches parlaient le français normand, de Normandie, puisque ça venait de Guillaume le Conquérant au départ, qui d'ailleurs s'appelait Guillaume le Bâtard et qui n'a été nommé conquérant qu'un peu tard. Et cette prévalence du français pour des quantités de domaines où on ne s'exprimait pas en ancien anglais sur ces domaines-là, qui étaient les domaines du savoir, les domaines de la religion, les domaines de la théorie, les domaines de la science, et aussi les domaines de la vie quotidienne agréable. Vous remarquerez une chose qui est tout à fait évidente et qui a été commentée de manière nationaliste par un grand écrivain écossais qui est Sir Walter Scott. Et Walter Scott a rappelé que, par exemple, quand un paysan élève des animaux, ils ont leur nom saxon, c'est des ox, oxen, et quand il est dans l'assiette, ça devient un beef, c'est-à-dire un mot qui vient du français bœuf. Et même chose pour le veau, même chose pour le mouton, mutton chop, mais sheep dans le pré.
Pourquoi dans toutes nos assiettes, dans les assiettes du monde entier, c'est finalement le mot science-fiction qui a atterri?
Alors, dans les assiettes du monde entier, le mot science-fiction est venu du fait que le mot fiction, en anglais, est employé depuis le début du 19e siècle pour une catégorie littéraire. C'est-à-dire qu'on produit des textes. Ces textes sont soit des textes qui concernent le réel, et ce sont des essais, ce sont des manuels, ce sont toute la littérature scientifique, technique, descriptive, etc. Et puis il y a l'imaginaire. Et l'imaginaire se dit, dans l'édition anglaise, depuis fort longtemps, fiction. Quand une partie de cette fiction, c'est-à-dire le roman, finalement, le roman, la nouvelle essentiellement, parce qu'il s'agit de prose, il ne s'agit pas de poésie, quand elle s'imprègne d'éléments scientifiques pour imaginer l'avenir ou pour évoquer le passé. D'ailleurs, les frères Ronnie, qui sont des auteurs de science-fiction français du 19e siècle, donc le merveilleux scientifique, sont des scientifiques, ou se veulent des scientifiques, ou imitent les scientifiques. Même chose comme pour George Herbert Wells, qui est aussi dans un esprit scientifique. Donc c'est la science qui a prévalu, mais la science dans un sens très large, parce que il s'agit souvent de techniques ou de technologies, il s'agit souvent d'éléments qui sont des éléments matériels qui sont représentatifs de la modernité extrême, et cela induit des choses. Et puis c'est greffé là-dessus toute autre chose qui est la prévision du futur, c'est-à-dire des romans qui se passent à une époque que nous ne pouvons pas connaître et qui est donc imaginée. Donc ça s'inscrit dans un autre américanisme qui est fantasy. Et malheureusement, je pense qu'on pourrait très bien le franciser en fantasy, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre la fantasy dans la vie et dans le comportement quotidien et l'écriture d'un livre.
Étrangement, le mot fantaisie est passé tel quel en français, donc écrit avec un Y à l'anglo-saxonne, mais désigne justement un autre pan de l'imaginaire. Mais vous venez justement de parler là des deux grands motifs de création de néologisme qui sont la perception du futur et la prise en compte du présent technique. Alors, robot, c'est quand même un terme qui a une fortune invraisemblable.
Invraisemblable, et bon, ça c'est un emprunt, c'est un emprunt qui vient du Tchèque, c'est le roman de Karel Čapek, qui s'appelait, le titre original, c'est Les robots universels de Rossum, R-U-R en français, dont la traduction française a eu immédiatement un très grand succès, et qui est une histoire dans laquelle le travail, qui est le verbe rabotje, dans toutes les langues slaves, y compris en russe, qui veut dire travailler, tout simplement. Ce mot a été pris à l'instigation, vous me l'avez dit tout à l'heure, du frère, je crois, de Čapek, qui était scientifique, et qui lui a dit, pour ton automate, car en fait, il y avait un mot français qui existait pour ce qui a été appelé robot à partir de ce moment-là, qui existait, mais qui sonne un peu archaïque maintenant, qui est l'automate. Et l'automate, c'est celui qui se meut de lui-même. C'est donc, il y a cette idée d'autoproduction, et qu'on retrouve dans automobile, par exemple. Et l'automate était tout à fait convenable pour ce que nous appelons robot aujourd'hui. Mais à cause du succès mondial du livre de Čapek, pour une fois, c'est pas un anglicisme, c'est un tchéquisme. Voilà un mot qui venait d'un auteur tchèque. Qui donc appartient à l'ensemble des langues slaves et qui est passé dans le monde entier. Et sa diffusion est là à partir du moment où ça passe dans des langues étrangères. Il y a des langues qui sont des langues vecteurs, si vous voulez. C'est comme pour les maladies. Je ne veux pas dire que tous les mots sont des maladies, mais d'une certaine manière, ça arrive. Ils passent par des vecteurs. Et ces vecteurs sont très, très souvent aujourd'hui l'anglais des États-Unis, mais ça peut être l'allemand, ça peut être le français. Et là, je pense que pour le mot robot, les premières traductions qui ont eu de l'influence mondiale sont allemandes, donc, et qui est une langue germanique qui n'a rien à voir avec la langue originale. Donc, il y a une partie des gens qui utilisent le mot robot qui savent, parce qu'ils sont slaves, que ça veut dire quelque chose qui a rapport avec le travail, et les autres ne le savent pas. Et parce que la nature de l'invention de l'idée de robot, c'est pour le faire travailler. Et on va le retrouver actuellement. On a présenté hier ici même un robot dont la finalité avouée, je ne sais pas s'il y en a d'inavouée, mais en tous les cas la finalité avouée, est d'être une sorte d'aide ménagère automatique qui serait censée aider les personnes handicapées, par exemple, ce qui est très noble, et qui certainement dans 10 ou 20 ans sera réalisé.
Justement, il y a eu un précédent concernant le néologisme de science-fiction et le handicap, c'est la nouvelle de Robert Heinlein, Waldo, en 1942, oui. Où un homme lourdement handicapé met au point des extensions de son corps, des bras mécaniques, et qui a été repris ensuite dans l'ingénierie, pour désigner ces bras qui interviennent en milieu hostile.
C'est ça.
Effectivement, donc il y a téléportation aussi, qui est un grand rêve de l'humanité, qui sert maintenant en mécanique quantique à désigner le transfert instantané d'un atome. Alors,
il y a vraiment deux finalités très différentes. C'est-à-dire que quand on est du côté de Waldo et de l'activité automatique, qui est un prolongement du corps humain ou le remède à des défaillances du corps humain, on est dans cette partie de la science-fiction et de l'imaginaire dans lequel on joue sur l'idée qu'est-ce que c'est qu'un homme. C'est-à-dire que le handicap pose un problème parce que le concept homme n'est pas réalisé complètement. Et ça, c'est un problème qui s'accroche à un problème plus général qui est qu'est-ce que c'est qu'un être humain, et par rapport à l'animal d'une part, et par rapport à l'incapacité à remplir les fonctions normales de l'humain. Et ça, c'est vrai pour tous les mots qui sont accrochés à des êtres vivants. Quand vous dites qu'un chien est un quadrupède, vous ne mentez pas. Et pourtant, il y a des chiens qui ont une patte cassée et qui marchent sur trois pattes. Et ce ne sont pas des tripodes pour autant. Ce sont toujours des quadrupèdes, même s'ils n'ont que trois pattes fonctionnelles. Donc, on s'aperçoit que le concept échappe à l'observation de l'objet. Et que l'objet peut très bien dépasser les conditions de définition du concept. D'où la difficulté de la définition dans les dictionnaires. J'aime mieux vous dire que quand il s'agit d'un objet concret, on s'en sort à peu près parce qu'il y a un oiseau idéal, un chien idéal que l'on décrit, c'est le concept. Mais quand il s'agit de la liberté ou de la passion, alors là, on ne sait plus où s'arrête l'idéal, où s'arrête le concept lui-même. Donc ça, c'est un travail sur l'idée d'humanité, si vous voulez.
Oui.
Par contre, le deuxième exemple, qui était la téléportation, là, il s'agit d'une réponse largement imaginaire au départ et qui va devenir non imaginaire dans la mesure où c'est utilisé en physique, mais qui au départ est imaginaire et qui vient de quoi ? Qui vient de la constatation d'un élément extrêmement gênant pour l'imaginaire, qui est la limitation de la vitesse à la vitesse de la lumière. Que rien ne peut aller plus vite qu'un photon. Donc, si on est limité à la vitesse de la lumière, du coup, les voyages intergalactiques, ça devient des millions d'années. Donc, du coup, dans la fiction, ça devient assez difficile à gérer, vous l'avouerez. Il faudrait imaginer des sociétés entières et des milliers de générations avant d'arriver à destination. Ça ne marche pas très bien au point de vue narratif. Donc, il faut inventer quelque chose dans lequel la lumière, la vitesse de la lumière est annulée et qu'il y a une vitesse infinie qui devient possible. Et pour ça, on invente un mot nouveau parce que ça fait hurler les physiciens, parce que pour le moment, il n'est pas question d'aller plus vite que la lumière. Donc, je dis pour le moment, parce qu'il faut toujours être prudent. On ne sait jamais si on ne va pas trouver un photon de X encore inconnu qui va encore plus vite. Mais enfin, on n'en est pas là. Donc, si vous voulez. Et là, on voit bien que les concepts scientifiques sont toujours à l'œuvre quand il s'agit de réalisation de ce genre. C'est-à-dire que l'imaginaire se heurte soit à la connaissance scientifique d'un moment, elle est limitée par ça, donc elle le transgresse, et là, du coup, il faut inventer des mots nouveaux pour avoir un concept nouveau. Et puis, par ailleurs, elle s'appuie sur la science réelle. Donc, il y a une contradiction interne dans la science-fiction qui est sensible, qui est la contradiction entre imaginaire et idéologie d'un côté et connaissance de la science dans son état le plus récent de l'autre. Et les deux sont très, très souvent incompatibles. Donc, cette incompatibilité, on en fait une narration. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le moteur de toute narration ? Est-ce que l'Iliade, ce n'est pas ça, finalement ? C'est-à-dire de raconter des choses possibles avec des éléments impossibles qui sont, dans Homère, les dieux, leurs interventions, les interférences avec les humains, le fait qu'on les humanise en leur prêtant des sentiments qui sont la projection des sentiments humains, mais qui sont souvent incompatibles dans la narration parce qu'ils viennent emmerder les humains ou les empêcher de s'entendre, des choses comme ça. Et ça, finalement, quel est le premier grand roman de science-fiction ? C'est l'Iliade. Ou Gilgamesh, pour parler des Sumériens. Bon, je dis l'Iliade parce que ça donne, on a des idées en tête. Alors que l'Odyssée est déjà quelque chose qui se rapproche du roman réaliste, même s'il y a des magiciennes, même s'il y a des éléments qui sont incompatibles avec l'observation quotidienne, c'est quand même essentiellement quelque chose qui tourne autour d'une expérience humaine. Alors ce n'est pas le cas dans l'Iliade, où l'expérience humaine est intégrée à l'intérieur d'une expérience d'un monde inventé. Et ce monde inventé, il est inventé collectivement quand il s'agit d'Homère, et il peut être inventé individuellement, mais en partie collectivement quand il s'agit de science-fiction contemporaine.
Justement, en tant qu'invention collective en rapport avec la science-fiction, et la difficulté que vous mentionnez depuis le début, même pour le linguiste, entre le concret et l'abstrait, vous participez à une entreprise initiée par le comité Colbert qui est qui est doublement difficile, qui a un vrai challenge, qui est de, un, penser l'avenir, deux, le luxe de l'avenir. Alors, comment penser quelque chose qui est à la fois rare et abstrait, bien qu'incarné dans des objets concrets, et le projeter dans le futur. Comment penser les mots du luxe du futur ?
Le problème, là, justement, c'était, comme vous dites, un challenge, j'aime mieux le prononcer à la française parce que ça existe en ancien français, donc c'est un mot qui est passé en anglais et qui nous revient avec la prononciation anglaise.
Je sais le paysan de Guillaume le Conquérant, là.
Voilà. Donc le challenge est double ou triple, parce que dans le luxe, il y a une idée qui est économique, forcément, et il y a une idée qui est sociale aussi, parce que chacun peut constater que le besoin de luxe est universel, y compris chez les plus pauvres, et qu'il y a une tendance de l'industrie qui existe à partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire pratiquement début du 19e siècle, et qui s'est beaucoup développée au 20e siècle, en rapport avec l'idéologie démocratique, et qui est que le luxe, au lieu d'être le signe de l'exception sociale, et le fait de renvoyer dans ces foyers hors luxe tous ceux qui ne font pas partie d'une aristocratie, au contraire, c'est une façon de vivre qui est considérée comme différente. Et elle passe par un savoir artisanal. Et le savoir artisanal, c'est évidemment quelque chose qui est très profondément ancré dans l'expérience des sociétés et qui, en ce moment, devient une résistance à l'industrialisation massive. C'est-à-dire que loin d'être un instrument de sélection sociale, le luxe va devenir ou est en train de devenir un instrument d'intégration sociale, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur le plan de la gestion par l'argent, de la financiarisation, etc. Mais indépendamment de ça, il y a un aspect de savoir-faire artisanal conservé qui est une réponse à l'industrialisation massive dans lequel tout ce qui est massif ne peut pas être luxueux, et il y a dans le luxe une dimension de plaisir, et de plaisir individuel et de plaisir collectif, et qui passe par des créations. Et ces créations, elles sont dues à des gens qu'il est difficile de désigner autrement que des artisans, parce que même s'ils sont intégrés à des systèmes économiques de nature industrielle ou commerciale, ils ont une créativité nécessaire qui est celle de l'artiste et de l'artisan, et là la frontière devient tout à fait perméable et tout à fait floue entre le dessinateur ou le peintre qui va avoir l'idée d'un objet et le designer qui va en faire un objet industriel, mais un objet industriel qui a été pensé d'une certaine manière. La frontière est complètement indécise et floue, et c'est ça qui est très très intéressant, parce que je pense qu'à l'avenir, ça va secouer les idées traditionnelles, non seulement d'artisanat, mais d'art en général. Et l'art, on le voit bien, est en train de devenir parfois semi-industriel. Jeff Koons, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, c'est un atelier de 100 personnes dans la banlieue de New York, et il ne met pas la main à la pâte à aucun moment. Donc il se trouve dans une situation qui est d'ailleurs pas complètement différente de celle des grands ateliers de la Renaissance, dans lesquels le peintre principal et qui signe n'est pas celui qui fait la totalité du tableau. Il lance le tableau, il a des aides, et il a l'atelier de Rubens. C'est impossible que Rubens, de sa main, ait fait la totalité des tableaux signés Rubens. Non. Et Jordan non plus. Donc,
justement, c'est cette partie-là d'entreprise collective, d'artisanat en rapport avec non pas un élitisme mais bien une utopie que générerait le luxe dans le futur qu'intervient ce projet. Alors il s'agit, j'en parle quelques minutes au public, d'une entreprise globale de création sous forme de livre dans lequel interviennent des gens, excusez du peu, comme Jean-Claude Duniac, Joël Vintrebert, Olivier Paquet, Anne Facoury, Samantha Bailly et d'autres, dont vous. C'est alors justement cette idée de penser le luxe comme le rêve, mais enfin un rêve incarné, un rêve à la portée de tous, sans rien lâcher du luxe, passe par des néologismes dont vous êtes à l'origine. Alors, oui. On va en essayer quelques-uns que je trouve très beaux, comme l'intimondial.
Alors intime mondial, c'est sur intimité et caractère mondial. Ça montre l'aller-retour entre le côté personnel, le côté psychologique de ce qu'on veut évoquer là, et puis son côté forcément d'intention mondialisée, c'est-à-dire que ça n'est pas incarné par une seule société ou une seule langue. Et l'élément mondial, pour moi, c'est aussi interlinguistique. Ça veut dire que ça peut s'exprimer dans toutes les langues du monde. C'est-à-dire qu'à travers une langue particulière qui est le français, on va exprimer quelque chose qui va être la propriété personnelle d'individus qui sont situés dans d'autres langues que la langue française. Et encore une fois, quand on sait qu'il y a 6000 langues parlées sur la Terre, malheureusement, ça diminue à vitesse grand V parce qu'on ne peut pas conserver une langue quand on est 12 individus isolés et qu'on attrape la langue des autres. C'est ce qui se passe en Amazonie pour beaucoup de langues indiennes en ce moment. Ça veut dire qu'il y a un côté mondial, c'est-à-dire universel, humain, d'un côté, mais il y a un côté personnel, individuel. Et si ce n'est pas incarné par un élément psychologique, intime, ça ne vaut pas grand chose. Donc il m'avait semblé qu'avec l'élément intime au début et l'élément mondial que tout le monde connaît et comprend, on a quelque chose qui n'est pas un oxymore, qui n'est pas contradictoire, mais qui, au contraire, qui évoque la communication, qui évoque un voyage entre l'individu et le général, entre l'humanisme général et l'individu particulier, en passant par la communauté. Et chaque communauté a le droit d'avoir sa propre intimité communautaire, indépendamment de l'intimité des personnes qui la composent. Donc, si vous voulez, c'est un mot à ressort, c'est un mot à tiroir. Voilà.
Oui, oui. Alors, hélas, le temps passe très vite. Il nous reste, avant peut-être quelques questions, 5 minutes. Enfin, je résiste pas, le rêver vrai.
Alors, moi, j'aime bien les mots qui sont composés avec des mots français préexistants, parce que là, disons, il n'y a pas de besoin d'intervenir sur des langues étrangères. Et le mot rêver est extraordinaire, parce que je ne vais pas vous faire son origine, parce que ça prendrait trop longtemps. C'est très compliqué, l'étymologie de rêver. Au départ, c'est l'idée d'une errance, c'est l'idée d'un voyage sans but. Et ça donne quand même un des aspects du rêve, qui est l'imprévisibilité totale. Mais il se trouve que très souvent, le rêve est articulé sur une vérité. Alors pour les psychanalystes, la chose est évidente, c'est articulé sur cette vérité profonde de chacun de nous, qu'est l'inconscient. Et pour d'autres, ça peut être un inconscient collectif. Si on est plus ou moins jungien, ça marche très bien. Et sinon, ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec la psychanalyse, mais simplement avec la psychologie consciente. Chacun sait que ses rêves lui appartiennent à lui, et chacun sait aussi qu'on rêve dans une langue, ce qui n'est pas neutre, parce que le fait de rêver dans une langue, quand on est plurilingue, par exemple, on sait que si on change de langue à l'intérieur de son rêve, c'est plus profond que si on change de langue dans la conversation, où on est contraint par les autres, tandis que dans le rêve, on est contraint par rien du tout. C'est le cerveau lui-même qui fait le travail. Donc, si vous voulez, le rêve est vrai, pour moi, c'est là aussi, ça n'est pas la même chose que l'intime mondial avec le voyage entre l'individuel et le collectif, mais c'est quelque chose qui est d'articuler le rêve sur la réalité, et plus que sur la réalité, sur la vérité. La vérité, c'est une abstraction. La vérité, c'est un rapport entre le réel et soi. Et ça peut être assumé aussi bien à l'état de veille qu'à l'état de sommeil. Et le remplacement en français du mot qui était le plus courant, qui était songe, par rêve, veut dire quelque chose. Songe, ça vient d'un radical qui veut dire le soin. C'est en rapport avec le soin. Songer à quelque chose, c'est le soigner. Songer et soigner sont en rapport. Alors que le rêve est dans un tout autre univers qui est celui du déplacement incontrôlé. C'est-à-dire que là, on rejoint le territoire de la science-fiction, du voyage, des autres mondes et de toutes les possibilités inventives possibles. Donc, si vous voulez, à part le sens que peut avoir le mot dans une définition de dictionnaire, vous avez une infinité de connotations qui marchent avec lui. Et plus on a recours à des mots français déjà anciens et qui ont toute leur histoire littéraire, par exemple, plus les connotations sont riches.
Alors, avant de laisser la parole au public, il nous reste une minute. On nous demande aux Utopiales de vous suggérer en un mot le thème de l'année prochaine.
Il y a un mot qui me vient à l'esprit parce que je suis dedans depuis 2 ans, c'est le mot voyage, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le voyage des mots et qui est sur le rapport qui existe entre des mots d'origine arabe, persane et turque avec la langue française. J'ai fait ça parce que j'ai travaillé avec un calligraphe plasticien qui est d'origine tunisienne et qui habite Nantes, d'ailleurs je le salue au passage, mais il n'est pas là parce qu'il est à Paris en ce moment, et qui s'appelle Lassad Metoui et qui a beaucoup de talent. Et je viens de faire avec lui un deuxième livre qu'il a illustré et qui est une réflexion sur l'art et qui s'appelle Le voyage des formes. Donc je pense qu'on peut faire voyager énormément de choses dans la vie, que le voyage interstellaire ou intergalactique n'est qu'un aspect de la chose, mais voilà, ça me vient à l'esprit, ça n'a aucune valeur prospective, mais je pense que le thème du voyage est un thème qui est déclinable à l'infini et en dehors de toute réalité observable. Mais déjà avec l'évolution de l'espace, on a des voyages martiens qui sont en prévision, et puisqu'il y a même des voyages dans l'espace qui sont maintenant vendu, même si une fusée récente s'est cassée la figure au passage. Donc, comme disait Paul Virilio, qui est un philosophe que j'aime bien, bien qu'il soit un peu catastrophiste, en inventant l'avion, on invente l'accident d'avion. En inventant la fusée spatiale, on invente l'accident de fusée spatiale. C'est une évidence, c'est comme ça que ça se passe toujours. Mais voilà, en inventant la guerre atomique, on invente la centrale atomique qui est le sommet de la pacification de l'atome, et puis justement on s'aperçoit que la centrale atomique présente un certain nombre d'inconvénients et des possibilités d'accidents, ce qui fait qu'on en revient un petit peu. Voilà. Donc voyage.
Bah écoutez, en tout cas vous avez réussi une distorsion temporelle parce que en une heure de voyage, vous nous avez embarqué ailleurs. Merci beaucoup, Alain Rey. Et donc, si le public a quelques questions, un micro.
Bonjour. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, sur Terre, on parle environ 6000 langues. Et malheureusement, ce nombre de langues diminue. Est-ce qu'au contraire, dans un monde, disons, utopique, l'idéal ne serait pas de parler une seule langue ? C'est-à-dire que j'imagine que je vis dans un monde où on parle une seule langue. Et vous venez me voir en m'expliquant que c'est dommage, je n'ai qu'une seule langue, j'aurais pu en venir plusieurs, avec des cultures différentes, avec des richesses différentes. Sauf que je vais vous dire, bah, d'accord, alors ça veut dire que mon ami japonais, je ne peux plus communiquer avec lui, sauf à apprendre le japonais. Mes collègues allemands, quand je fais des voyages dans des pays espagnols, et puis tous les sites internet devraient utiliser les 6000 langues disponibles, ce qui fait que je ne pourrais plus y accéder. Est-ce que, justement, voilà ma question, est-ce que le monde idéal, ce n'est pas une seule langue ? Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans nos langues, finalement ? On dit nos langues, c'est des richesses, mais c'est aussi des prisons dans lesquelles est incapable de communiquer avec les autres.
On en revient toujours, vous savez, la langue est la meilleure et la pire des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on est enfermé dans d'autres langues par rapport aux autres, et on est enrichi par d'autres langues en restant à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, rêver d'un monde dans lequel il n'y aurait qu'une seule langue, ça serait quelque chose de très remarquable pour l'évolution de l'humanité. Les choses seraient très différentes, mais à mon avis, le besoin de variété, le besoin de penser les choses différemment suivant les lieux où on est, suivant le type de société, suivant le type d'émotion prépondérante dans un groupe, ferait que cette langue aurait des dialectes très différents les uns des autres assez rapidement. Je crois qu'il est un peu impossible de rester dans une fiction de ce genre. Regardez même à l'intérieur d'une langue comme la langue française, suivant le lieu où vous la parlez, il y a des différences considérables, et en poussant les choses plus loin, dans chaque famille, il y a des expressions particulières, des manières de s'exprimer, il y a des dialectes familiaux, et il y a ce qu'on appelle un peu bêtement l'idiolecte, qui est la langue qu'on a soi-même et qui n'est pas tout à fait celle du voisin, même quand on est dans la même langue. Donc l'incompréhension va avec la faculté de comprendre. C'est quelque chose de même que l'accident va avec l'invention technique, de même le fait d'être capable de comprendre et d'évoquer les choses en dehors fait qu'il y a des possibilités d'évocation différentes, parce que les cerveaux humains sont ainsi faits qu'ils ont un point commun qui est la capacité de langage et qu'ils ont la nécessité de la variabilité à l'intérieur de ce point commun. Donc je pense qu'il est peu possible avec la structure du cerveau humain que l'humanité se mette à parler la même langue. D'un autre côté, c'est vrai que 6000 langues, c'est un abus logique, ça rend les choses extrêmement difficiles pour la communication. Mais je dis malheureusement que ça disparaît parce qu'il y a une autre solution, et tout le monde la connaît, mais peu la pratique, qui est le plurilinguisme. Et en fait, la solution est très souvent celle du bilinguisme. Le bilinguisme est toujours un progrès par rapport à l'unilinguisme. Quand on est dans une seule langue, on n'aperçoit plus la langue. On finit, c'est ma métaphore de la vitre tout à l'heure. La vitre est transparente, on ne la voit plus. Et on ne sait plus qu'on parle à travers une langue. On ne sait plus, on croit qu'on est en rapport direct avec l'extérieur, et ça c'est dramatique. C'est vraiment le problème philosophique de la perception du réel. En revanche, lorsqu'il y a 6000 langues dans un... Il y a 6 milliards d'humains, il y a 6000 langues, c'est beaucoup trop, c'est certain, pour la fonctionnalité. Mais en même temps, ça n'est pas trop pour l'identité de chacun. Parce que on ne peut pas partager l'expérience d'un pygmée du nord du Cameroun quand on est nantais ou quand on est parisien. Et de même, déjà, quand on est brestois et quand on est strasbourgeois, on n'a pas la même manière d'envisager la langue française et de la pratiquer. Donc la nécessité de la variation, je crois qu'elle est là, vraiment universelle et dans le cerveau humain. Et puis il y a tout de même un remède qui est fantastique, parce que toute traduction est toujours possible et elle est toujours imparfaite, si vous voulez. Donc suivant le type de discours qui est traité, on peut traduire parfaitement, on peut traduire imparfaitement, mais on peut toujours traduire. Et traduire, voilà encore un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est conduire à travers, ducere trans. Et conduire à travers, c'est ce que fait le langage lui-même, quelle que soit la langue de représentation. C'est très extraordinaire que les grands écrivains, en écrivant dans une langue particulière, qui va être le français, l'anglais, l'allemand, etc., ou le japonais, accèdent à quelque chose qui est universel dans la mesure où ils sont traduisibles. Et ils le sont toujours dans une certaine mesure, ils ne le sont jamais complètement. Je veux dire que c'est vrai que Shakespeare en français, c'est peut-être moins bien que Shakespeare en anglais. Mais vous remarquerez quelque chose, et je finirai là-dessus, parce que on n'y pense pas souvent, c'est que quand on a affaire à Shakespeare ou à Cervantes, on a des traductions de plus en plus modernes, c'est-à-dire que nous, Français, nous avons un accès à la pensée de Shakespeare à travers les déformations de la langue française, mais c'est proche de nous et ça nous parle directement. Un anglophone, quand il a affaire à Shakespeare, il a un taux d'incompréhension considérable à cause du vieillissement de l'anglais de Shakespeare par rapport à l'anglais contemporain ou à l'américain contemporain, et du coup il perd beaucoup de choses. De même nous, quand on voit du Molière, quand on voit du Molière à la télévision, il y a énormément du texte qui se perd pour la compréhension de chacun. Si vous êtes anglais et vous voyez Molière en anglais, ça va être une traduction d'il y a 10 ans, faite par un dramaturge, et ça sera beaucoup plus proche de votre sensibilité. Donc voilà, la traduction, c'est à la fois une déperdition et une perpétuation. C'est encore là aussi un voyage.
Eh bien, merci beaucoup Alain Rey pour ce voyage dans le passé et le futur de la langue.